Arctic Institute, RDC et Afrique centrale. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Les enjeux de ce débat étaient élevés, non seulement en raison de l'imminence de l'élection, mais aussi parce que le dernier débat présidentiel de juin entre Trump et le président en exercice, Joe Biden, dont la prestation a été très critiquée, a déclenché une série d'événements qui ont abouti plusieurs semaines plus tard au retrait de Biden de la course et à l'entrée en scène de Harris. Revenons sur les réponses des candidats sur quelques-uns des grands thèmes qui ont été abordés lors de ce débat. D'abord, l'économie. À la question de savoir si les Américains vivaient aujourd'hui dans de meilleures conditions qu'il y a 4 ans, Kamala Harris a accusé son adversaire d'avoir laissé aux démocrates à son départ de la Maison-Blanche le pire taux de chômage depuis la Grande Dépression. Donald Trump a de son côté accusé l'administration Biden d'avoir ouvert la porte au plus haut taux d'inflation de l'histoire des États-Unis. Comment avez-vous évalué les différentes réponses et propositions économiques des deux candidats, Monsieur Haïda?
Je crois que c'est un débat qui était très attendu du côté de la candidate démocrate. On attendait qu'elle se révèle, surtout qu'on connaisse ses propositions, qu'on sache aussi comment elle peut se démarquer un temps après du bilan de Biden, tout en assumant les parts qui lui sont redevables. Et elle a su s'affirmer au cours de ce débat en montrant qu'elle était une candidate capable de faire des propositions, mais aussi elle a révélé son nombre de faiblesses du candidat Trump en rappelant qu'il avait lui-même un bilan qui n'était pas assez remarquable. Donc en définitive, je pense que sur le plan des grands thèmes comme l'immigration, comme l'économie, Harris a su faire la différence sur ces points-là. Sur l'immigration, par exemple, en rappelant qu'elle est favorable à plus d'humanisme tout en préservant la sécurité des États-Unis. Mais du côté du président Trump, du candidat Trump, on a vu qu'il a martelé un nombre de rhétoriques qui lui sont connues. Assurer, disons, la diminution des impôts tout en assurant aussi que les Américains soient plus prospères qu'avant et en revendiquant d'avoir été le meilleur candidat, le meilleur président pour les États-Unis, mais aussi avec un certain nombre de contre-vérités comme on le connaît qu'il a tenté d'assumer.
Monsieur Bonpetit, jusqu'ici, Donald Trump a été décrit comme le candidat qui répond le mieux aux préoccupations des électeurs sur les questions d'économie et d'immigration. Le débat de mardi, selon vous, a-t-il le potentiel de renforcer cette idée ou de changer la perception des électeurs?
Merci, Madame Alexandrie, pour l'invitation. Nous avons vu un débat où le candidat président Donald Trump était concentré sur le sujet qui concerne les Américains, l'économie, l'immigration, la politique extérieure. Et en face de nous, nous avons eu une candidate, Madame Harris, qui n'a pas pu articuler clairement sa vision sur l'économie. On a commencé le débat par la question: est-ce que les Américains vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Elle n'a pas pu répondre à cette question. On ne sait pas sa vision. Elle n'a pas pu étayer sur sa vision de l'économie. Aujourd'hui, le prix de l'essence est très élevé. Le prix du pain est très élevé. Les prix de maison, les rêves américains deviennent utopiques. Vous voyez, alors que pendant le président Donald Trump, nous avons vu comment le pouvoir d'achat américain allait à s'améliorant, était fort. Nous avons vu que l'Américain, le pouvoir, les rêves américains étaient réels. Tout le monde pouvait bien s'acheter une maison et réaliser les rêves américains. Nous avons vu un président qui a un record, et Kamala Harris a fait 3 ans et demi au pouvoir avec Joe Biden, qui n'a pas pu répondre à cette question cruciale puisque l'Américain l'attendait à ce point-là. Alors nous avons un président qui a une vision pour ce pays sur le plan interne et sur le plan extérieur. Quand président Trump était président, on n'a pas pu avoir des guerres dans le monde, en Russie, en Israël et en Afrique. Donc nous avons besoin d'un président fort, et le président Donald Trump a rassuré ses électeurs.
Madame Ndiaye, vous avez suivi ce débat. Est-ce que selon vous, les candidats ont retenu, vous avez retenu quelque chose des réponses des candidats sur les questions de l'économie, de l'immigration?
Déjà, c'était un débat très 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 attendu, et débat je dirais même que je qualifierais d'historique. À ma grande surprise, nous avons tous assisté à un match où tous les candidats, en particulier la candidate la vice-présidente Harris, étaient tout le temps sous l'offensive, sous l'offensive, avec un président Trump qui lui aussi était sous l'offensive et la défensive. Et in fine, je pense qu'aucun des candidats n'a pu vraiment satisfaire les attentes de l'audience par rapport au contenu de leur programme. Hormis le président Trump qui, d'emblée, a répondu à la question sur l'économie, juste après, toutes les autres questions, que ce soit celle de l'avortement, les questions sur l'immigration, n'ont pas été abordées pour moi, profondément. On s'attendait à beaucoup plus. On a plutôt observé un président qui répondait à des attaques et qui était tombé dans le piège de la vice-présidente candidate Harris dès le départ, donc qui a été décontenancée, et une vice-présidente qui avait des réponses un peu évasives parfois. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas ont pu constater qu'elle a du répondant, mais pour ceux qui s'attendaient à ce qu'elle décline tous les différents programmes qu'elle va offrir aux Américains, n'ont pas été forcément satisfaits.
Alors les commentaires et les analyses ont fleuri au lendemain de ce débat, et selon de nombreuses personnes, la vice-présidente Kamala Harris a remporté ce débat haut la main. Monsieur Aïda, qu'est-ce que cela signifie concrètement, remporter un débat?
Vous savez, le défi pour Kamala Harris, c'était d'abord de montrer qu'elle était capable de remplacer le candidat Biden. On savait déjà que Trump s'était préparé pour affronter Biden dans cette campagne, et le changement de candidature a déstabilisé un temps soit peu, pas seulement le candidat Trump, mais également tout le parti républicain. Et vous avez vu que Trump est connu pour sa personnalité. Il s'attendait certainement, et vous voyez sa rhétorique, c'est de présenter Kamala Harris comme une communiste qui veut ramener l'Amérique en arrière. Et Kamala Harris s'était défendue, vous savez, elle s'est bien préparée, je dirais, pour ce débat. Elle n'a pas voulu s'appesantir tellement sur les politiques publiques qu'elle propose, mais elle a déstabilisé carrément le président Trump. Et je crois que c'était ça son objectif principal. Elle a toute la campagne en face d'elle pour maintenant décliner ses politiques et surtout jouer sur des propositions qu'elle a formulées. On vient juste de quitter la Convention démocrate de Chicago, au cours de laquelle elle a largement décliné ses politiques et ce qu'elle propose pour les Américains. Sur ce plan-là, je pense que son message est passé.
Et au lendemain de ce débat, le candidat républicain Donald Trump a affirmé que le débat était truqué. Monsieur Bonpetit, est-ce un aveu d'échec du candidat républicain selon vous ?
Non, je partage son point de vue. Le débat, le président Trump était en face de lui, il débattait avec trois personnes. Nous avons vu les journalistes comment ils ne faisaient que le fact-check au président Trump, le contredire, et il n'a jamais contredit, même ne serait-ce qu'une fois, la candidate Kamala Harris, pendant qu'elle débutait des mensonges. Et c'est connu maintenant tout ce qu'elle a pu débiter. Et là, prochainement, nous ne pouvons plus accepter que président Trump puisse avoir un débat dans une chaîne qui a une tendance démocrate. Et malgré cela, on a vu sa combativité, on a vu sa passion pour le pays, où il a décliné, il a démontré. Il a été au-delà des attaques de Mme Harris qui faisait les appels émotionnels sur les sujets comme l'avortement. Et c'était ça vraiment sa vision, déstabiliser président Trump, essayer de l'amener dans un coin où on dit qu'il ne respecte pas les femmes et tout ça. Et il était au-delà de cela, et il a pu articuler et répondre à ces attaques et aux questions de ces trois co-débatteurs.
Je vous vois hocher la tête, vous voulez réagir ?
Ben oui, j'aimerais bien, parce que je trouve que le président Trump, malheureusement, ce soir-là n'était pas au meilleur de sa forme. Je m'attendais à deux candidats au meilleur de leur forme, mais force est à reconnaître qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce débat, parce qu'avec toutes les balles qui se sont tirées, chacun des candidats, c'est que leur objectif était de vraiment rallier les indécis. Alors, le président Trump sortait parfois certaines affirmations qui étaient qu'on peut qualifier de surprenantes, voire même risibles, concernant l'immigration, concernant l'avortement. Mais en fait, c'était des messages qu'il envoyait à une frange de la population. D'abord, à ses partisans, qui...
Des messages pas vérifiés.
Pas vérifiés, bien évidemment. Donc, des rumeurs, de fortes rumeurs qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Quant à la candidate Harris, elle cherchait à aussi convaincre certains électeurs qui n'ont pas encore pris la décision de voter pour elle, notamment notamment sur les questions d'immigration, sur la question aussi de la politique étrangère, quand on voit toutes les prises de position qu'elle a faites par rapport à Israël et l'Ukraine, c'est pour rallier une frange de la population indécise, d'électeurs indécis.
Et quel type de leadership attendez-vous du prochain président américain et pourquoi cela vous importe-t-il? C'est la question que nous avons posée à nos téléspectateurs et je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Hier, Marcelin Kofi à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous dit que ce débat nous montre la maturité démocratique des Américains, car très peu de candidats se livrent à cet exercice sur le continent. La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump, selon lui, doivent être capables de maîtriser la politique étrangère et surtout apporter une réponse adéquate à la question de l'immigration irrégulière. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad nous dit que ce débat a permis à chaque candidat de défendre ses projets politiques afin de convaincre la grande partie de l'électorat. Le leadership que chacun attend est celui de garantir les avantages des Américains sur les plans sécuritaires, économiques, sociaux, culturels et partenarial. Alphonse Mbouaki de Kinshasa, lui, dit que le leadership attendu du pays de l'oncle Sam doit être celui d'une Amérique ouverte au monde et non une Amérique recroquevillée ou cloîtrée sur elle-même. Une Amérique qui lutte contre une immigration irrégulière, mais pas une Amérique qui va procéder à des expulsions sauvages et inhumaines. On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat Washington Forum sur VOA Afrique. Restez avec nous.
Tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Dans des Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Trouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Washington Forum sur VOA Afrique, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous revenons sur la première confrontation entre Harris et Trump pour la présidentielle de novembre. Je suis avec Leila Ndiaye, présidente et CEO de LND Global Network ici à Washington DC. Nous avons en ligne depuis Dallas Junior Bonpetit, républicain et fondateur de Congolese for Trump, et de Kinshasa en RDC, Dani Aïda, directeur résident senior du National Democratic Institute, RDC et Afrique centrale. À ce stade de la campagne, quels sont les points forts et faiblesses des candidats ou les qualités qui peuvent jouer en leur faveur en novembre prochain, Madame Ndiaye, selon vous?
Ben, je vous remercie. Bon, les points forts et les points faibles, quand on analyse un peu tous les partisans de part et d'autre, hein, que ce soit du camp républicain comme démocrate, je veux dire, ce sont des personnes qui sont convaincues. Convaincus de la qualité et des aptitudes de leur candidat. Très difficile de convaincre quelqu'un qui est un fanatique de Trump de basculer. L'enjeu aujourd'hui n'est pas la qualité et les atouts en
tant que tel. Donc selon vous, les électeurs sont déjà
acquis. Je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir convaincre les indécis. et surtout ceux qui vont peser très lourd sur dans les États pivots, hein, parce que aujourd'hui vous constatez qu'il y a une migration vers certains États pour changer carrément les résultats, et qui vont tendre soit en faveur du président Trump, soit en faveur de la candidate, la vice-présidente Harris. Et pour moi, cette élection n'est pas encore gagnée, malgré le fait que tout le monde soit satisfait de la performance de la candidate Harris lors du débat, mais ce n'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup à faire de part et d'autre.
Monsieur Bonpetti, vous pensez aussi que les électeurs sont déjà acquis et que ce débat n'a pas vraiment eu d'impact sur leur choix ?
Je pense que les électeurs, surtout indécis, ont compris que Donald Trump a une vision, et que Donald Trump, pendant ces 4 ans, il vivait mieux. Ils avaient le pouvoir d'achat était très élevé, ils pouvaient bien s'acheter une maison, et les prix de l'essence étaient très bas, et ils vivaient mieux que maintenant. Ils ont vu en face une dame qui est au pouvoir, ça fait 3 ans et demi, qui n'a pas pu articuler clairement quelle est sa vision de l'Amérique de demain. Aujourd'hui, elle est là, elle propose des choses. Les choses qu'elle propose, elle peut les réaliser aujourd'hui déjà, parce qu'elle est encore au pouvoir, elle peut réaliser les choses. Aujourd'hui, les électeurs indécis ont compris, en face de nous, nous avons un leader qui est respecté dans le monde, qui peut faire face à Poutine, qui peut faire face aux Chinois, qui peut faire face au Hamas. Donc, c'est clair, et nous avons encore du travail à faire pour une tranche faible majorité, minorité, mais nous avons un président qui est fort pour fermer les frontières et rétablir l'économie de l'Amérique et donner encore de l'espoir pour les rêves américains, les goûts, le plaisir de vivre aux États-Unis.
Monsieur Haïda, ce débat a-t-il eu le potentiel de changer le cours de la campagne, selon vous, et d'impacter le choix des électeurs ?
Je crois que le débat a permis de confirmer les positions des deux principaux candidats sur des questions de principe, hein, qui ont toujours divisé les républicains et les démocrates aux États-Unis. Les prochaines élections vont se jouer surtout par rapport à la qualité des propositions qui répondent aux besoins de la classe moyenne, qui répondent aussi à des besoins spécifiques, surtout sur les questions d'économie, de santé, d'éducation, des questions qui touchent à la majorité des. Et la suite de la campagne va se jouer au-delà de ces questions de principe et de ce que du vote qui va dans un sens ou dans un autre dans les principaux États. On verra que l'articulation des grands thèmes qui ont été annoncés au cours de ce débat vont permettre aux électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix de se déterminer. Et cela va se jouer dans la suite de la campagne qui sera assez localisée. Le message politique va être articulé autour des questions clés dans des États spécifiques en fonction des besoins. Et sur ces questions-là, on a 2 grands partis. Ils se connaissent bien, leurs forces et leurs faiblesses. Les candidats sont maintenant assez outillés. Et je pense qu'il sera utile pour un candidat comme Trump, par exemple, d'aller au-delà des attaques et aussi des questions du genre par rapport à l'immigration, par exemple, et même les élections. Sauver la démocratie américaine, ne pas continuer à dire, par exemple, que les élections de 2020 étaient truquées, de dire que des immigrants mangent des animaux de compagnie, c'est des questions terre à terre qui certainement ne font pas son affaire. Et quant à la candidate Harris, je crois qu'elle a le temps d'articuler ses propositions sur le plan économique, et la suite de la campagne va certainement confirmer cela. Pour le moment, les questions qui sont énoncées, mais rien n'est encore joué.
Je reste avec vous pour parler de l'importance même des débats présidentiels à l'ère des réseaux sociaux. Sont-ils encore pertinents aujourd'hui dans une campagne électorale, ces débats présidentiels ?
Je crois bien, oui. Vous savez, les débats présidentiels aux États-Unis, c'est un débat, je crois, que beaucoup d'autres démocraties voient avec intérêt, qui est même copié dans d'autres pays. Et de plus en plus de pays veulent s'en inspirer. On sait qu'à cette ère où la démocratie dans plusieurs continents est parfois contestée, où on voit des extrêmes s'affirmer, ces débats ont l'avantage d'affirmer les candidats, de les amener à se prononcer, d'articuler des messages politiques clairs. Et c'est relayé sur les médias sociaux. On voit comment depuis ce débat-là, hein, il y a des capsules qui sont sorties, il y a des vidéos qui sont élaborées par les deux campagnes pour essayer d'insister sur des volets sur lesquels, bon, ils pensent que leurs candidats ont pu marquer des points. Donc je pense que c'est tellement, on espère bien qu'il y aura un deuxième débat au cours de cette campagne où les deux candidats gagnerait certainement à être plus pointu sur des questions sur lesquelles les Américains les attendent.
Que pensez-vous de l'importance ou de la pertinence des débats dans une campagne électorale?
Très important hein, de nos jours, c'est parce que, comme on a pu l'observer, juste après le débat de mardi dernier, nous avons une artiste ici, Taylor Swift, qui a tweeté. C'est une artiste qui a plus de 283 millions de followers.
Elle est très suivie.
Elle était sur Instagram et non sur Twitter. Et juste après avoir fait sa publication, elle a eu 4 millions de réponses positives et endossé la candidate
Harris.
Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien et ça permet aussi, je veux dire, de dynamiser un peu la campagne sur les réseaux sociaux parce qu'elle a face à elle un répondant qui est Elon Musk avec Twitter, avec X. Donc je pense que c'est très important, mais au-delà, ce sont des plateformes de libre expression qui vont permettre à ces candidats aussi de pouvoir lire les messages qui venant de leurs électeurs ou de leurs sympathisants tout simplement et réajuster la communication lors des campagnes, de la campagne, lors des rallyes, etc. Et ça sert aussi de modèle pour nos démocraties ou même pas pour le monde entier.
Là, vous parlez de l'importance des réseaux sociaux. Monsieur Bonpetit, voilà. Que pensez-vous de la pertinence des débats présidentiels dans une campagne électorale?
Non, le débat est ancré dans la culture américaine et nous devons écouter les candidats qui veulent diriger les États-Unis. Ils doivent se confronter, ils doivent articuler, être capables dans la divergence d'idées, proposer une meilleure idée, une meilleure proposition pour les États-Unis. C'est vraiment même un exemple que nos pays africains doivent suivre parce qu'ils ne pouvaient pas devenir président comme ça. On doit vous écouter, vous devez être capable de bien étayer, de bien expliquer votre vision. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie bat son plein. Et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous ne pouvez plus débiter ou vous permettre de dire de n'importe quoi parce que on va vous présenter les arguments contradictoires devant vous avec les réseaux sociaux, avec aujourd'hui l'impact qu'a Twitter, X aujourd'hui, pour la liberté de la parole, d'expression. C'est très, très important que les candidats présidents puissent se confronter lors d'un débat. Et nous avons vu les résultats, Madame Harris a été dévoilée. Elle n'a pas pu articuler clairement sa vision sur l'économie, sur l'immigration et sur la politique extérieure. Où président Trump a bien gagné les points, ou a bien expliqué, a démontré, même avec ses records lors de son mandat passé.
Alors, donc, ce n'est pas ce que montrent les sondages qu'on a vus après ce débat. Monsieur Haïda, vous disiez à l'instant que vous espérez qu'il y aura un deuxième débat. La candidate démocrate Kamala Harris a mis au défi son rival républicain de débattre une deuxième fois peu après la fin de leur première confrontation. À votre avis, y aura-t-il un deuxième débat présidentiel?
Je crois qu'il le faut bien. Et il faut aussi que le candidat Trump certainement suive les consignes données par ses conseillers. Tout à l'heure, notre vis-à-vis essaie de démontrer que le candidat Trump s'en est bien sorti, mais évidemment aussi bien les sondages que ce que nous avons vu ont montré qu'il a été déstabilisé. Il s'attendait à attaquer, il a été attaqué, il était sur le défensif tout le temps. Il a dit un certain nombre de contre-vérités. Je crois que sur ces aspects-là, un deuxième débat va permettre certainement de débattre. Si on va continuer à traiter des grands médias américains, de faire du fake news ou bien ABC, d'abattre que le débat, ce ne sont pas des discours de ce genre qui vont apaiser la suite de la campagne. On s'attend à ce que le candidat Trump prenne de la hauteur, on s'attend à ce que la candidate Harris puisse élaborer par rapport à un certain nombre de propositions, et certainement un deuxième débat va permettre à cela de se faire et puis de clarifier pour que le choix des électeurs américains soit plus facilité.
Vous y croyez à un deuxième débat? Vous pensez qu'il y aura lieu?
Ben, je l'espère, parce que, comme je disais, ce premier débat peut-être qualifié d'un match où la candidate Harris est venue pour abattre carrément son adversaire, ce qu'elle a réussi à faire, donc le déstabiliser, le décontenancer, et n'a pas pu nous donner les détails de son programme. Et d'ailleurs, il en est de même pour le président Trump. Nous attendons le prochain débat pour que chacun des candidats puisse vraiment nous dire ce qu'il nous propose.
Merci. Monsieur Bonpetit, je clore avec vous quelques secondes. Vous y croyez qu'il y aura un deuxième débat, oui ou non?
Oui. là-dessus, je crois fermement, parce que nous devons écouter Mme Harris expliquer sa vision.
Merci. Merci à vous pour vos réflexions. C'est la fin de ce débat Washington Forum sur VOA Afrique. Alexandre Coin, l'Union avec vous. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis, 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com. Bonne soirée avec les programmes de VOA Afrique.